Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
J'aimerais vous parler aujourd'hui de deux constellations toutes proches, pourvues de belles étoiles brillantes. L'été n'est pas forcément la meilleure période pour les observer, car elles sont assez proches du soleil. Elles sont visibles plutôt très tôt le matin, mais le reste de l'année, elles sont très belles. Au printemps, en début de nuit, à l'automne, à la fin de la nuit. Tout d'abord, les Gémeaux, signes du zodiaque. Deux façons de les repérer. La constellation des Gémeaux peut se repérer à partir de la Grande Ourse. La diagonale du chariot pointe sur Pollux, et cet alignement se prolonge ensuite vers la diagonale d'Orion. Une autre façon de la repérer, c'est de partir d'Orion. On prend l'alignement entre Rigel et Bételgeuse, et il passe par le pied des Gémeaux, puis pointe ensuite sur Pollux. La constellation a une forme assez nette. À partir de Castor et Pollux, les deux étoiles les plus brillantes partent deux lignes vers Orion. Si les conditions de visibilité sont satisfaisantes, vous trouverez dans la direction marquée par le corps Castor-Pollux la ligne des bras étendue des deux Gémeaux. Et puis, celles des genoux et des pieds sont parallèles à la ligne des bras. Depuis Pollux, on peut trouver de nombreux alignements à grande distance. Par exemple, partez de Pollux, essayez de trouver Capella, puis passez par Andromède, vous pourrez ensuite naviguer dans une ligne droite vers le Verseau et le Sagittaire. Un autre alignement passe le long du corps des Gémeaux, donc vous pouvez partir soit de Pollux, soit de Castor, et ensuite vous passez par la constellation du Taureau, celle de la Baleine, jusqu'à Fomalo, du poisson austral, et puis vous arriverez sur le Sagittaire. En partant plus vers le sud, vous passez le long des corps des Gémeaux, vous passez par Rigel, Bételgeuse, et vous pouvez longer la constellation de l'Éridan. Un autre alignement par des Gémeaux passe par Procyon, Sirius, la Colombe. Et puis vers l'est, vous partez de Castor, vous passez par Pollux, puis Régulus du Lion, Spica de la Vierge, et on arrive ensuite sur Antarès du Scorpion. Et on peut même aller jusqu'à la tête du Sagittaire. On a ainsi fait tout le tour du ciel. Pour les Grecs, la constellation des Gémeaux représentait Castor et Pollux, les frères jumeaux d'Hélène de Troie. Ce sont les fils jumeaux de Zeus et de Léda. Ils sont appelés les Dioscures, ce qui signifie les fils de Zeus en grec. Laissez-moi vous raconter leur histoire. Un jour, Zeus tomba amoureux de Léda, épouse du roi de Sparte. Pour la séduire, il se changea en cygne et s'unit à elle. Léda pondit donc deux œufs. Dans l'un des œufs se trouvaient Castor et Clytemnestre, des enfants mortels, et dans l'autre, Pollux et Hélène, des enfants divins et immortels. Les Romains, eux, y voyaient Romulus et Rémus, les jumeaux fondateurs de Rome. Dans de nombreuses cultures, les étoiles que nous appelons Castor et Pollux sont considérées comme jumelles. C'est ainsi qu'en Nouvelle-Zélande, les Maoris les considèrent comme deux jumeaux qui ne se quittaient jamais depuis leur tendre enfance. Leurs parents, pensant leur rendre service, voulurent les séparer. Mais quand les jumeaux eurent vent de ce projet, ils se sauvèrent en pleine nuit et du sommet d'une haute montagne sautèrent sur la voûte céleste, où ils prirent l'apparence de deux étoiles. Comme de vrais jumeaux, il n'est pas facile de savoir quelle est l'étoile Castor et qui est Pollux. Mais voici un petit moyen mnémotechnique pour ne pas les confondre. Castor est du côté de Capella, tout simplement. Aux côtés des Gémeaux se trouve la grande constellation du Cocher, et sa très brillante étoile Capella. C'est d'ailleurs en partant de Capella que l'on repère la constellation. Si la Grande Ourse est visible, il faut prendre 5 fois la taille du haut de la casserole, soit environ 20 degrés, ce qui correspond à votre main ouverte tendue devant vous, du bout du pouce au bout du petit doigt. On prend donc ces 20 degrés en direction de l'ouest, soit à l'opposé du manche, et on tombe sur Capella. Capella fait partie de la grande diagonale d'Andromède, un long alignement servant de moyen de repérage. Partez du grand carré de Pégase. Il passe par Algol, Capella, Castor, Pollux, Alphard de l'Hydre, l'extrémité des voiles, puis Arcrux, Alpha Centauri, Chola du Scorpion, l'arc et la tête du Sagittaire, et puis remonte sur la tête du Capricorne, le long de l'axe du Verseau, pour boucler sur la grande diagonale du carré de Pégase. Et vous avez fait le tour du ciel. La constellation du Cocher a une forme de pentagone, si on lui adjoint une des étoiles du Taureau. Cette constellation est très ancienne, sûrement grâce à la brillance de Capella, qui ne passe vraiment pas inaperçue. Les cartes célestes nous montrent là depuis un temps immémorial un cocher sans voiture. Néanmoins, il tient de la main droite un fouet et des rênes. On lui a mis sur le bras une chèvre et même deux petits chevreaux nouvellement nés, qui sont représentés par Nu, Eta et Gamma Auriga, et qui forment un petit triangle en dessous de Capella. Le cocher de la mythologie est associé à Erichthonios, le fils d'Héphaïstos et de Gaïa. Ce dernier aurait inventé le quadrige, un char attelé à quatre chevaux placés de front. Ou plus précisément, il aurait reproduit sur Terre le char que Apollon utilise dans le ciel pour lever le soleil. Devant tant de mérite, Zeus lui accorda une place bien méritée sur la voûte céleste. Capella, la chevrette, est l'étoile la plus brillante de la constellation du Cocher. Elle est aussi l'étoile la plus brillante proche du pôle nord céleste. Son nom signifie la chevrette. Elle représente la chèvre qui accompagne le cocher. Une autre étoile très intéressante dans le cocher, c'est Ae Auriga. Ae Auriga est une étoile bleue de séquence principale, alors en apparence banale, de magnitude apparente 6, donc pas très évidente à voir, car 6 c'est vraiment la magnitude la plus élevée que l'œil humain puisse voir. Il faut de bonnes conditions, mais ce qui est intéressant avec cette étoile, distante d'environ 1400 années-lumière, c'est que c'est l'une des trois étoiles évadées, se déplaçant très vite dans l'espace. Les deux autres étoiles sont Mu de la Colombe et 53 Arietis du Bélier. Toutes les trois semblent s'échapper à environ 100 km par seconde du même point dans la nébuleuse d'Orion, plus précisément de Iota Orionis. Selon une théorie, ces étoiles aurait été à l'origine partie prenante d'un système multiple qui se serait désagrégé lors de l'explosion en supernova de l'un des membres, il y a à peu près 3 millions d'années, projetant les trois autres étoiles dans des directions différentes. In constant sorrow. Where I was born and raised, the place where he was born and raised. Le Cocher est aussi une constellation riche en amas ouverts, relativement lumineux, qu'on peut observer aux jumelles. Alors prenons un peu de temps pour parler instruments d'observation. Le premier instrument, évidemment, c'est votre œil. Et c'est un plaisir de savoir, repérer et d'observer les étoiles à l'occasion d'une balade nocturne. Mais si vous vous intéressez au ciel la nuit, vous aurez bien vite envie d'en savoir plus. Voyons quels moyens sont à votre disposition. Le premier instrument, ce sont les jumelles. On n'y pense pas forcément, mais les jumelles sont un très bon instrument d'observation. D'ailleurs, la plupart des astronomes chevronnés les ont toujours à portée de main. Une bonne paire de jumelles va grossir 7 ou 8 fois, tout en gardant un assez grand angle de vision. Vous pourrez ainsi observer entre 5 et 8 degrés du ciel. C'est l'équivalent de 3 à 4 fois la taille de la pleine lune. Le tout pour un budget raisonnable, en plus c'est facile à transporter. Alors, que peut-on voir aux jumelles ? Dans de bonnes conditions, à l'œil nu, on peut voir à peu près 3000 étoiles. eh bien, aux jumelles, ce sont plus de 100 000 objets que vous pourrez observer. L'été offre de spectacles magnifiques, comme Mizar et Alcor, le célèbre couple d'étoiles situé dans la Grande Ourse, mais aussi la superbe M13, le grand amas d'Hercule. En été, vous pouvez observer la Voie lactée, depuis la constellation du Cygne jusqu'à celle du Sagittaire, à la recherche d'amas d'étoiles ou de nébuleuses de gaz interstellaires. Certaines sections de la Voie lactée sont, à mon avis, plus intéressantes dans des jumelles d'astronomie que dans n'importe quel télescope. En automne, avec vos jumelles, ne manquez pas la galaxie d'Andromède, qui ressemble à un petit nuage ovale faiblement lumineux. Contrastez sa douceur avec le scintillement délicat du double amas de Persée. Tout cela attend que vous les traquiez aux jumelles avec vos cartes du ciel et vos guides détaillés. Grâce aux jumelles, vous allez acquérir des compétences en matière de cartographie, quand vous chercherez des objets lointains et peu lumineux dans des étendues sombres. Et ces compétences sont indispensables pour bien utiliser un télescope. C'est donc un très bon apprentissage avant de passer au niveau supérieur, qui est l'achat d'un instrument dédié à l'observation céleste, soit une lunette, soit un télescope. Mais ça, nous en reparlerons dans une prochaine émission. Pour terminer sur les jumelles, si vous désirez vous équiper, voici quelques conseils. Ce que vous allez observer est globalement sombre. Les objets dont je vous ai parlé sont faiblement lumineux. C'est pourquoi il est très important de privilégier l'ouverture, c'est-à-dire la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil d'observation. Autrement dit, des grandes lentilles frontales. La qualité de l'optique est souvent en rapport avec le prix. Donc attention aux trop bonnes affaires qui pourraient être synonymes de mauvaise qualité. De nombreux guides d'achat existent sur Internet ou dans les magazines spécialisés. Prenez le temps de vous renseigner et si possible d'essayer le matériel avant d'investir. N'hésitez pas à vous rendre dans un club d'astronomie où des spécialistes, amateurs mais spécialistes, pourront vous parler un peu plus en détail de leurs instruments, de leurs critères et de leurs conseils.